franceinter.fr. Alain Baraton, Alain Bougrain-Dubourg, bonjour à vous deux.
Bonjour Patricien,
bonjour.
Vous allez faire vos chroniques l'un après l'autre, sinon oui. On ne va plus rien y comprendre. On commence par Alain Baraton.
Si vous le souhaitez.
Beaucoup de fleurs se ferment le soir, me dit-on.
Eh oui, et elles le font pour éviter que des insectes sans intérêt pour leur reproduction viennent profiter de leurs semences. En un mot, elles préservent leur précieux pollen.
Donc on ne peut pas dire qu'elles se reposent.
Non, peut-être se reposent-elles, mais il est impossible de le vérifier. Ce qui est sûr est que les plantes s'adaptent à leur environnement et distinguent clairement le jour et la nuit.
Et en automne, les arbres entrent en dormance.
Ils cessent de pousser, perdent leurs feuilles pour la majorité des feuillus et attendent sereinement l'arrivée du printemps pour produire à nouveau feuilles, fleurs et fruits.
Mais entrer en dormance, ça signifie dormir vraiment, non?
Ah, pas vraiment, se met dans une sorte de petit coma, je dirais.
Bien, ils dorment comme nous alors?
Eh bien écoutez, alors, c'est pas moi qui pense que les arbres dorment vraiment comme nous autres les humains, mais de très sérieux scientifiques qui se sont intéressés aux arbres, et en particulier au Betula pendula, l'un des bouleaux les plus communs en Europe. C'est le bouleau que vous avez l'habitude de voir au gré de vos déplacements. Ils ont observé avec sérieux et minutie le comportement de l'arbre le soir, et ils ont constaté quelques modifications dans son apparence.
Alors lesquelles?
Quand vous dormez, Patricia, vos bras et vos jambes ne réagissent plus. En un mot, votre corps tout entier se relâche.
Je peux pas le savoir puisque je dors.
Oui, peut-être, mais si quelqu'un est à vos côtés, il pourra lui-même le constater.
Personne, je ne laisse personne regarder comment je dors.
Ça, je veux bien le comprendre, car il paraîtrait que vous ronflez incroyablement. Voilà. Alors, eh ben, il s'avère qu'il en serait de même pour le bouleau.
Ah bon.
Sitôt la nuit venue, eh bien, son branchage et son feuillage s'affaisseraient, et ce, très distinctement. Alors, pour être précis...
Un petit peu comme vous.
En quelque sorte. Bah, tout à fait. Alors, pour être précis, les chercheurs ont constaté avec leurs yeux et un matériel à visée laser que l'inclinaison des branches vers le sol pouvait atteindre 10 cm, ce n'est pas rien.
Mais
donc,
c'est pas rien du tout.
Pour résumer, donc, effectivement, il y a une sorte de tassement du branchage le soir vers le sol, avec redressement des tiges le matin avec l'arrivée du soleil. C'est assez incroyable.
Êtes-vous certain du sérieux de ces travaux?
Ce dont je suis sûr est qu'ils ont été publiés par des chercheurs réputés pour leurs compétences. Alors, pour expliquer ce phénomène, les scientifiques mettent en avant que l'absence de photosynthèse de la nuit modifie la quantité et la pression de l'eau dans les tissus de la plante. Un peu comme notre cœur qui, battant moins vite quand nous dormons, modifie là aussi notre flux sanguin, ce qui fait baisser notre tension. On découvre aujourd'hui que les arbres dorment. Peut-être demain, nous apprendrons qu'ils rêvent.
Mais c'est possible, ça.
Ça serait même magnifique.
Ah oui.
À quoi peut rêver un bouleau?
Qui rencontre une boulotte?
Oh, ce serait... Oui, pourquoi pas?
Il est belle de nuit.
Oui.
Elle s'épanouit en pleine nuit. Elle.
Tout à fait, parce que justement, l'insecte reproducteur de la belle de nuit, qui est une fleur très odorante et blanche, eh bien, l'insecte pollinisateur vit la nuit. Donc, pour éviter que ce soit les insectes de jour qui viennent disperser le précieux pollen, eh bien là, mécanisme inverse, elle protège leurs semences.
Et quand on est nénuphar?
Bah, le nénuphar, moi je me rappelle, je vous avais peut-être raconté, je donnais une soirée
vous
à la maison.
Vous racontez tellement de choses.
Et j'avais eu envie de mettre des fleurs de nénuphar sur la table,
oui,
pour décorer.
Ça vous le racontez à chaque fois, ça fait 20 ans.
Mais c'était magnifique parce que quand vous avez des fleurs de nénuphar à 17h sur la table, la présentation est grandiose. Et au fur et à mesure que la soirée avançait, les fleurs se refermaient. Et je vous assure que sur une table, une fleur de nénuphar totalement fermée à minuit n'a aucun intérêt.
Claude vous demande jusqu'à quand est-il possible de tondre sa pelouse.
Bon, je vais répondre un peu comme une lapalissade tant qu'elle pousse, bien évidemment. En fait, c'est l'arrivée.
C'est malin.
Oui, mais c'est l'arrivée du froid, en fait, qui fait que l'on arrête de tondre. Ce matin, par exemple, à Versailles, eh bien oui, il y avait de la glace sur le pare-brise de mon véhicule, voyez-vous. Eh bien oui. Donc quand la pelouse commence à supporter le gel, on arrête de tondre parce que là, effectivement, la coupe peut endommager le brin. Le bras endommagé va devenir déchiqueté, un peu jaunâtre, et vous avez une pelouse qui pendant plusieurs mois va rester d'apparence pas forcément extraordinairement belle, donc on arrête de tondre dès que les températures sont négatives.
Quelle est la meilleure période pour élaguer un chêne et faut-il employer du mastic cicatrisant? Vous demande Mélanie.
Je parlais il y a un instant des arbres qui rentrent en dormance. C'est un petit peu comme vous, Patricia, si vous rentrez, et je ne le souhaite pas bien sûr, pour une petite intervention chirurgicale, on va vous endormir. Non mais c'est un exemple. On va donc vous endormir.
Oui, on peut prendre ça comme exemple, effectivement.
Non, mais j'essaie de trouver des images pour que vous puissiez comprendre.
Le mastic, c'est à quel moment?
Alors, on y arrive. Ah, je vais vous massacrer pendant la chronique. Donc, on va vous endormir. Eh bien, pour couper la branche...
En fait, vous rêvez qu'on m'endorme.
Oui, ah, j'adorerais ça. Eh bien, pour un arbre, c'est la même chose. Il est préférable d'intervenir sur l'arbre en période de dormance. Donc, pour répondre à la question, on interviendra sur l'élagage entre novembre et février ou mars. Pour ce qui est du mastic cicatrisant, il a été prouvé que la plante n'avait pas besoin d'un mastic cicatrisant pour cicatriser. Cela ne sert absolument à rien. pire. Il faut savoir que c'est comme si vous mettiez, revenons à votre exemple, vous avez un petit bobo à un doigt, vous avez mis un pansement, eh bien imaginez l'état de votre doigt dans 40 ans si vous n'avez pas changé le pansement. C'est pareil pour les
bronches. Effectivement. Comment détruire le vinaigrier, cet arbre envahissant qui pousse en rejetons partout? La question est de Georges.
Bougrain Dubourg a peut-être une idée. Donc, non, je plaisante. Donc, c'est le rustifina, un arbuste, un petit arbre originaire d'Amérique, qui est un très, très beau végétal. Attention, la sève est extrêmement toxique et cette plante a tendance à beaucoup rejeter. Quand je dis rejeter, c'est produire des rejets, bien évidemment. Eh bien, il suffit tout simplement de couper. Huile de coude, il n'y a pas d'autre solution. On coupe et on recoupe.
François-Régis Gaudry vous regarde, il est ébahi. Edith.
Ébahi ou admiratif?
Admiratif, Edith a un jasmin magnifique qui est contre un mur et qui fleurit habituellement tout l'été. Elle est partie début juillet et en revenant, de nombreuses feuilles étaient tombées. J'ai pensé au problème de sécheresse, mais j'ai remarqué des parties blanchies plutôt collantes. Que dois-je faire?
Alors, il y a une possibilité, c'est la cochenille dite farineuse. La cochenille est un insecte stupide qui se présente sous la forme d'une petite carapace qui se bloque sur la feuille et qui va consommer la sève. Et en échange, si on peut parler ainsi, il produit comme une petite poudre blanche semblable à de la farine. C'est pour ça que la plante devient un petit peu blanche et on l'appellera la cochenille farineuse. Donc là, il faut traiter bien évidemment par des moyens naturels, mais ils sont très, malheureusement, très rares. Autre possibilité, des pucerons, le bon vieux puceron qui là encore pique la plante pour se nourrir de la sève. Que se passe-t-il? La feuille, en réaction, eh bien, va produire une sorte de miella, de chocolat, c'est n'importe quoi. L'insecte pique la feuille. L'insecte en piquant dépose sur la feuille un miella, c'est une sorte de suc, et la plante en réaction va produire un champignon que l'on appelle la fumagine. Et la fumagine est justement cette texture collante qui fait que l'ensemble n'est pas très beau et très désagréable. Donc c'est des problèmes effectivement qui peuvent être liés à la sécheresse. La plante souffre, ne peut pas lutter contre les agresseurs, on ne fait plus rien, on arrive à l'automne. Tout le monde entre en dormance, je l'ai dit il y a un instant, laissons dormir la nature, on verra au printemps.
Est-ce qu'on se promène quand même en automne?
Non, on prend un livre et on reste près du feu et on lit la réimpression d'un ouvrage d'exception, Instructions pour les jardins fruitiers et potagers du célèbre et incroyablement compétent Jean-Baptiste de la Quintini, le créateur du potager du roi à Versailles. C'est Actes Sud qui a eu la bonne idée de reproduire, de republier cette Bible sur la manière de conduire les végétaux fruitiers. Le préambule est d'Antoine Jacobson, il sait de quoi il parle, il est le responsable du potager du roi à Versailles, donc c'est le titre exact. Instructions pour les jardins fruitiers et potagers, Jean-Baptiste de la Quintini, Actes Sud, et si vous voulez tout savoir, 29 euros.
On se met au coin du feu, on lit ça, et puis tout à l'heure avec François-Régis Gaudry, on va se mijoter des petits plats d'automne.